La prière de Sainte Thérèse de Lisieux ou prier avec Sainte Thérèse, c'est le thème de cette conférence de Mgr Guy Gaucher, ancien évêque auxiliaire de Bayeux-Lisieux, décédé en 2014. La prière de Thérèse ou prier avec Thérèse de Lisieux, Mgr Guy Gaucher.
Alors mon vrai sujet, c'est la prière de Thérèse. Thérèse entrant au Carmel, elle sait où elle entre dans un ordre contemplatif, c'est-à-dire de religieuses qui prient, de religieux aussi, ça existe, les carmes, bon, et puis la spiritualité carmélitaine, qui est née, ça c'est plutôt sympathique, qui est née au Mont Carmel, en Terre Sainte, c'est un des rares ordres religieux qui est né sur la terre de Jésus. Alors, c'est pas Saint Élie qui a créé les carmes, mais Saint Élie, il est l'ancêtre spirituel, car Élie, c'est l'homme qui est allé au désert, au Sinaï, à l'Horeb, qui a contemplé Dieu et qui est un très grand contemplatif, mais aussi un homme d'action, qui bagarre avec les prophètes de Baal, et qui fait ce mouvement incessant de désert et d'évangélisation, je dirais. Bon, avec des phases difficiles, à un moment donné il est désespéré, comme tous les prophètes, parce qu'il est écrasé par la tâche, comme Moïse, comme Jérémie. Bon, en tout cas, il était au Mont Carmel. Et au XIIe siècle, des gens ont aussi vécu, il y a des grottes au Mont Carmel, il y en a toujours, et des gens ont vécu en ermite, mais ensemble. Chacun au désert, mais ensemble. Ils célébraient l'Eucharistie ensemble. Et puis, ils ont été chassés par le retour des Arabes. Et ils sont venus en Europe. Et ce n'est qu'au XVIe siècle que Thérèse d'Avila et Jean de la Croix ont réformé le Carmel. Car, comme souvent, ben, avec le temps, eh ben, la nature humaine s'avachit et puis on a toujours besoin de réforme, de renouveau. Et donc, Thérèse d'Avila, une femme forte encore, quitte son couvent de l'Incarnation où ils étaient 180, où c'était, oh, c'était pas scandaleux, mais enfin, c'était un peu la foi. Il y a beaucoup de carmélites, au parloir ça discutait beaucoup, les chevaliers d'Avila venaient un peu compter fleurettes aux religieuses, dont on n'était pas toujours sûr qu'elles aient toute la vocation, parce qu'elles avaient été envoyées par leurs parents. Ça faisait une bouche de moins à nourrir, car il y avait beaucoup de famine à l'époque. Bon, et puis on sortait de clôture, parce que la prieure disait, il n'y a plus rien à manger, ben vous n'avez qu'à aller en ville et débrouillez-vous. Bon, je caricature un peu, mais à peine. Thérèse d'Avila se convertit à 40 ans, vraiment. Pendant 20 ans, elle a été une bonne religieuse. Et puis à 40 ans, Jésus lui a dit, elle a une vision de Jésus sanglant, et puis elle aussi, elle a une conversion. Et elle dit, nous allons faire des petits colombiers de la Vierge, avec douceur, et on va vivre l'Évangile, parce que le monde est en feu. Les guerres de religion, les chrétiens se massacrent allègrement, et c'est la découverte de l'Amérique. Et Thérèse d'Avila a 4 frères conquistadors, qui mourront tous là-bas. Et elle dit, qu'est-ce qui va annoncer l'Évangile aux Indiens? Moi, je suis une pauvre femme, dit-elle, façon de parler. Je ne peux rien faire, alors on va vivre l'Évangile à fond pour les prédicateurs, pour les théologiens, pour les missionnaires. Et on va vivre pauvrement, on va vivre la vie fraternelle, une vie fraternelle joyeuse. Et c'est vrai, elle introduit la danse dans les créations, les chants, la musique, le théâtre. Parce qu'on ne peut pas être toujours, toujours en prière. Comme disaient les pères, un arc trop tendu se casse. Donc, la nature humaine doit aussi trouver des temps de récréation. C'est pour ça qu'on vit en solitude, et puis on se retrouve en récréation, et puis on se retrouve à la prière. La petite Thérèse, enfin Thérèse de Lisieux, sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, pour dire son vrai nom de religion, veut entrer dans cette vie de cœur à cœur avec Jésus. Elle dira dans un poème, elle n'a pas peur des mots, « À des amants, il faut la solitude, un cœur à cœur qui dure nuit et jour. » Nuit et jour, c'est précisément au cœur de la règle du Carmel. Le cœur de la règle du Carmel, tu méditeras la parole de Dieu nuit et jour. Ce qui est une formule, parce qu'il faut dormir et manger, mais qui veut indiquer que ce qui va nourrir ta vie, ça va être la parole. Et Thérèse a tellement médité la parole qu'a dit Pie XI, le pape Pie XI, elle est devenue une parole de Dieu pour le monde. À force de méditer la parole, elle est devenue une parole de Dieu pour le monde. Et ce n'est pas sans paradoxe, puisqu'elle n'avait pas la Bible. Car la Bible était interdite aux noviciens en ce temps-là. Or, comme Thérèse était novice toute sa vie, vu qu'elle avait 2 sœurs déjà au chapitre, Elle n'a jamais eu que le Nouveau Testament, ce qui est déjà pas mal, ce qui est essentiel, mais quand même. Alors elle fouinait dans tout ce qu'elle pouvait, dans la liturgie qui était pourtant en latin, elle ne comprenait rien en latin, enfin, dans les traductions, dans Saint Jean de la Croix, dans l'Imitation de Jésus-Christ. Et mon ami le père Brault, qui a été longtemps directeur des éditions du Cerf, dit, un grand hérésien, « Nous avons des atlas, nous avons 25 traductions de la Bible, nous faisons des sessions, nous avons des livres d'introduction, nous allons même en Terre Sainte, et nous ne connaissons pas mieux la Bible que Thérèse de Lisieux. Pourquoi ? Parce que Thérèse ne faisait pas de l'exégèse intellectuelle, elle s'alimentait à la parole dans la prière, dans la rumination de la parole, dans l'écoute de la parole, dans sa prière. Et c'est tellement vrai que nous avons ratissé dans son œuvre les citations d'écriture et nous avons fait un livre qui s'appelle « La Bible avec Thérèse de Lisieux » et nous avons trouvé 450 citations de l'Ancien Testament et 650 citations du Nouveau. Pour une fille qui a écrit très peu et qui est morte à 24 ans, elle cite plus souvent la Bible que Saint Jean de la Croix, qui avait été étudiant et professeur à Salamanque. Nuit et jour, méditer la parole de Dieu pour arriver à une prière continuelle. Pourtant, elle a 2 heures d'oraison par jour. 1 heure le matin, 1 heure le soir, dans la chapelle avec les carmélites. L'oraison, c'est la prière silencieuse, personnelle avec Jésus, avec la Trinité, ensemble, mais en silence. Il faut le faire. Par ailleurs, il y a 4h30 d'office et de messe au cœur. Ça leur fait donc 6h30 de prière au cœur. Le reste du temps, on travaille en cellule. 2 heures de récréation et puis le travail. Et puis, la journée se passe comme ça. Thérèse est ravie de ces 2 heures, je dirais, enfin, d'être avec Jésus, mais ces 2 heures d'oraison par jour. Bon. Mais si elle est entrée au Carmel, ce n'est pas pour avoir des consolations dans sa prière. Car précisément, très vite, elle en aura très peu. Et c'est ça que je voudrais développer un peu. Mais déjà, son entrée au Carmel, dans cette conception de la prière, où elle a eu des grâces avant l'entrée au Carmel, des moments très grands, très forts au belvédère qui est la pièce au-dessus des au Buissonnet, là, où on voit tous les yeux. Elle est là avec sa sœur Céline, elles avaient 15 et 18 ans. Et elle dit, on a reçu des grâces comme Saint Augustin et Sainte Monique. Bon, évidemment, ça la pousse entre au Carmel. Mais très vite au Carmel, elle entre dans une grande sécheresse, une aridité. À 15 ans, 16 ans, nous en aurons des exemples. Donc, ce qu'elle recherche, c'est pas les dons de Dieu, c'est Dieu lui-même, ce qui n'est pas pareil. Et en même temps, elle veut offrir ça pour le monde, car elle entre, selon ce qu'elle dira à la fin de sa vie, pour aimer Jésus et le faire aimer. Et là, il faut sortir de cette notion de la contemplation et qui revient avec le retour de religieux dont on a parlé hier, avec New Age et compagnie, tous ces gens qui cherchent la méditation, qu'elle soit transcendantale ou non, qu'ils cherchent à être bien dans leur peau, qui font du yoga, qui font de la relaxation, qui font du jogging. Tout le monde cavale maintenant. Bon. Je le comprends. Parce que notre idéal, et revoir ce qu'a dit le cardinal Danels, c'est quand même d'être bien dans sa peau. Et c'est sûr qu'il vaut mieux être bien dans sa peau que tout mal foutu et tordu. Et qu'on nous donne tous les moyens pour ça. Il y a la relaxation, il y a des crèmes, il y a le bronzing. Et quand même, l'idéal, c'est la fille, en général, c'est plutôt une fille longiligne, heureuse, détendue, qu'on voit à la télé. Bon, voilà un peu l'idéal, être bien dans sa peau. Et je comprends que les gens stressés par le métro, par la vie, par le chômage, par plein de choses, voudraient bien être comme ça. Alors, l'idéal, c'est la quarantaine resplendissante. Alors moi, je m'interroge pour ceux qui ont 50 ans. Bon. Et puis moi, je n'ai 63. Alors moi, c'est foutu, quoi. Hein? Alors je comprends ce désir de spirituel, mais comment il va se réaliser? Et la rencontre du Seigneur Jésus tel qu'il est, tel que nous donne la révélation, je peux aller le voir justement comme un thérapeute. Jésus fait que je sois bien dans ma peau. Ce qui est une demande légitime, puisque dans l'Évangile, les lépreux, les paralytiques et les malades vont trouver Jésus. Et c'est vrai que Jésus les guérit. Mais on nous l'a dit aussi, il est guéri parce qu'il veut aller au fond de leur être. Et que l'idéal, ce n'est pas la quarantaine resplendissante. L'idéal, c'est même si on a un corps mal fichu, mais qu'on ait découvert l'essentiel de l'amour. Et ça réhabilite tous ceux, et il y en a beaucoup, qui ont l'arthrose ou qui sont malades, et qui peuvent être au cœur de l'arrêté de l'amour, et qui sont souvent joyeux. Alors là, on n'y comprend rien. Parce que vous avez des belles filles rectilignes qu'on voit à la télé, qui font des gueules impossibles. J'ai jamais vu un mannequin sourire, moi. Ça doit faire partie du contrat. Il ne faut surtout pas sourire. Bon. Alors ces filles ont l'air sinistres en promenant des robes étonnantes. Bon. Et puis à côté de ça, vous avez des handicapés qui rayonnent la joie. Alors là, les gens ne comprennent plus du tout. Alors pour Thérèse, la contemplation, ce n'est pas s'isoler sur un nuage rose avec Jésus par rapport à un monde mauvais, pourri. C'est entrer dans le dessein d'amour de Jésus pour sauver le monde. Car notre Dieu, ce n'est pas encore une fois un Bouddha au ciel qu'il faudrait rejoindre. Notre Dieu est entré dans l'histoire. Tout l'Ancien Testament nous le dit. Et il s'est tellement inséré dans l'histoire que Jésus est venu parmi nous. Et l'incarnation, c'est capital. Et évidemment, elle est refusée par beaucoup qui disent « c'est pas digne de Dieu de prendre chair ». Parce que la chair, bon, rappelons-nous ce qu'on nous a dit au XIXe siècle avant, la chair, c'est dangereux, etc. Mais qu'est-ce qui a créé la chair ? C'est le Créateur. Bon. Et donc, il faut vraiment être tordu pour en arriver à penser, comme a écrit Simone de Beauvoir, qui avait d'ailleurs été élevée chez les Bonnes Sœurs, dans cette religion où la chair est maudite. Alors si on a donné cette impression-là, on s'est complètement planté, parce qu'il n'y a pas de religion qui a plus exalté la chair que le christianisme, parce qu'on est promis à la résurrection. Ce que beaucoup de gens refusent, parce qu'ils ont une idée de la résurrection un peu mauvaise, un peu tordue. Combien de fois les gens ont dit « Ah ben mon père, alors, s'il faut ressusciter avec son corps, moi qui ai de l'arthrose... » Alors, je ne sais pas comment ça se passera, mais on ressuscitera sans arthrose. Bon. Et on retrouvera notre corps de chair. Et Dieu n'a pas eu peur puisqu'il s'est fait chair. Et qu'il a pris chair de la Vierge Marie, une femme. Et donc, la résurrection, c'est évidemment capital. Lorsque Thérèse veut entrer en prière et contempler Dieu, c'est ce Dieu-là qu'elle contemple. Le Dieu trinitaire qui s'est inséré dans l'histoire. Et il veut sauver le monde, et c'est ce que veut Thérèse avec lui. On a souvent dit que la prière, c'est une évasion. Bien sûr que ça peut être une évasion. Je peux me réfugier dans la prière, dans mon petit monde intérieur, faire de l'introspection, ou éprouver des sentiments doux ou pas doux. Bon. Mais bon, ça, c'est une petite étape possible. Mais le Seigneur, il va me faire sortir de moi, car la prière, c'est à la fois une intériorisation, c'est vrai, car nous vivons à la surface de nous-mêmes et tout dans le monde nous pousse à vivre à la surface de nous-mêmes. Et donc c'est le Walkman. Je ne peux pas rester 2 minutes sans quelque chose, sans du bruit. Bon, ça peut être aussi de la musique. Bon, des fois il y a de la musique et du bruit. Bon, ça c'est notre problème. Mais, et puis il faut que je voyage, il faut que je bouge, parce que, comme dit Pascal, vraiment, l'homme, il ne peut pas rester dans sa chambre, quoi. Il ne peut pas rester dans sa cellule, et surtout dans sa cellule intérieure, où là, il pourrait enfin se trouver. Et en se trouvant, il pourrait aussi trouver Dieu, parce que Dieu parle dans le silence. Dieu parle dans le silence. Il n'y avait pas de journaliste le jour de l'Annonciation. Ils ont loupé un scoop. Bon. Et personne n'en a rien su à ce moment-là. Et quand Thérèse de Lisieux décide d'entrer au Carmel, ça se fait dans le silence. Et tout se fait dans le silence. C'est pour ça qu'il est bon de prendre une journée de silence. Parce que c'est très bien de vivre ce qu'on vit, mais si on ne descend pas là-dedans, au cœur du cœur, là où réside la Trinité, car Dieu habite en nous, on ne l'entend jamais. Et la prière, c'est d'abord ça. Descendre dans ce cœur à cœur, Alors qu'on puisse y être aidé parce qu'on ne sait pas prier et qu'on prie avec les autres, je suis d'accord, mais il faudra arriver à ça, à ce cœur à cœur personnel avec Dieu, où je vais me trouver et où... Alors ça, c'est le mouvement d'intériorisation tout à fait nécessaire. C'est pour ça qu'en général, il vaut mieux essayer de prier dans un lieu calme, à un moment calme, couper la télé, la radio, et puis se mettre devant le Seigneur. Bon, on va un petit peu voir comment. Et en même, mais ce mouvement d'intériorisation ne va pas nous faire ni de l'introspection ni de la psychanalyse. Il va au contraire nous faire sortir de nous-mêmes, sortir de notre narcissisme. Et ça, ça va en général, ça va être long. Pour que ma prière devienne extase. Attention, ce qui ne veut pas dire léviter à un mètre du sol ou voir, avoir des apparitions. Moi, je vois pas mal de gens qui me disent « Mon Père, Monseigneur, j'ai vu la Sainte Vierge, Jésus m'est apparu. » Je dis « Bon, faut voir quand même. Hein. » Bon, moi, ça ne m'est pas arrivé, mais peut-être que... Pas mal de gens comme ça. Bon, il faut discerner. Faut discerner. Après tout, Bernadette, c'était vrai. Bon, mais en même temps... Bon. Donc, l'extase, ce n'est pas des choses extraordinaires, c'est sortir de soi. Et sortir de soi pour aimer. La charité entrant dans mon cœur, je m'oubliais pour faire plaisir, et dès lors je fus heureuse. Cette extase, c'est précisément pour rencontrer le monde que Jésus veut sauver. Donc la prière, si elle est la prière chrétienne, n'est pas une évasion. Et Thérèse en avait le sens, elle dit « Nous, les carmélites, on nous prend pour des folles, et surtout des inutiles. » Et c'est vrai, quand on voit une jolie fille qui entre en Carmel, on dit « Elle ferait mieux, elle aurait mieux fait de se marier, et puis surtout, elle aurait mieux fait d'entrer dans un ordre apostolique, faire des piqûres, aller en Afrique. » Bon, et il en faut. Mais figurez-vous que Thérèse aurait voulu être missionnaire. Et quand elle est à Rome, sa sœur Céline lui poste des revues missionnaires. Nous sommes dans la grande époque missionnaire de la fin du XIXe siècle, où des foules de jeunes sont partis en Afrique, en Chine. Et elle en a connu, puisque l'abbé Roulant, son frère spirituel, est parti en Chine, et que son frère Bélière est parti en Afrique. Et en général, ils sont partis, ça a été des hécatombes. Heureux quand ils sont arrivés que le bateau n'ait pas coulé, mais aussi après ils attrapaient la malaria, ils attrapaient des tas de choses, ou alors on les coupait en rondelles, comme Théophane Vénard au Vietnam, qui est devenu d'ailleurs un grand ami de Thérèse, car elle l'aimait beaucoup, il était jeune. En général, elle aime mieux les saints jeunes que les saints vieux. Elle aime bien Jeanne d'Arc, elle aime bien Agnès, elle aime bien Cécile, elle aime bien Saint-Louis Gonzague, elle aime bien Théophane Vénard. Il était jeune, il était rigolo, il aimait sa famille, et il est mort martyr. Alors ça, pour Thérèse, c'est l'idéal absolu. Bon. Donc, cette prière contemplative, si nous contemplons ce Dieu trinitaire qui veut sauver le monde, et va nous envoyer au monde. Alors, de bien des manières. Et ça peut être dans la continuation de cette prière. C'est ça, la prière de Thérèse. Donc oui, alors, elle voulait devenir être missionnaire, et on lui passe des revues, et elle refuse de les lire. Et Céline dit « Pourquoi tu ne veux pas lire ça ?»« Parce que j'ai trop envie de partir en mission. » Et moi, ce n'est pas ce que le Seigneur me demande. Le Seigneur me demande de m'enfermer au Carmel pour être encore plus missionnaire. Donc Thérèse va continuer son oraison 2 heures par jour en écoutant d'abord la parole. Et c'est vrai qu'elle cède de son évangile. Elle n'avait pas d'évangile de poche, mais elle l'a inventé. Elle a fait décortiquer les 4 évangiles de son manuel du chrétien, les a fait relier, elle les portait toujours sur son cœur. Car, dit-elle, en scrutant l'évangile, je découvre Dieu, puisque Jésus est le chemin vers Dieu. Je suis la voie, la vérité et la vie. Elle disait, je passe mon temps à regarder Jésus pour savoir quelles sont les mœurs de Dieu. Comment est Dieu? Qui me voit, voit le Père. Et forcément, ça prend du temps. Le cardinal Danès nous a dit, nous, on veut tout, tout de suite. Alors, le Seigneur m'a donné un coup de grâce, je l'ai rencontré à Paray-le-Monial ou ailleurs, et alors, formidable. Bon, mais après, il y aura un lendemain. Bon, alors, si c'est un feu de paille, car ce qui compte, c'est pas de commencer, c'est de continuer. Il y a un vieux moine, le père Jérôme, de l'abbaye de Ceffonds. On a donné un titre à ses souvenirs, les souvenirs qu'on a écrits sur lui. Le titre, c'est « Car toujours dure longtemps ». Il voulait dire que quand on fait profession religieuse, ou quand on se marie, et si on prend ça au sérieux, on va dire « Je m'engage à toi pour toujours, toi Seigneur », ou alors la formule du mariage « Je me donne à toi pour toujours ». Moi qui ne suis que témoin privilégié quand je vois un mariage, je me dis, ben dis donc, faut le faire. Hein, je me donne à toi pour toujours. Alors, ou c'est sérieux ou c'est pas sérieux, mais enfin, que ça soit difficile, je veux bien le croire. Le jour du mariage, elle est adorable, lui il est très sympa, là ça va, mais quand tu les retrouves 10 ans après. Bon. C'est pareil dans la vie religieuse. On peut faire profession dans l'enthousiasme, puis 10 ans après, on se retrouve avec une prière qui est vraiment pas sympa, un évêque qu'on préférait un autre. Bon, alors, on est affronté au temps, et à la durée, et à la persévérance. Car la prière, c'est d'abord donner, dans le raison, donner du temps à Dieu. Or, le temps, nous dit la pub, c'est de l'argent. Et donc, prier, c'est perdre son temps pour Dieu. Mais l'amour a besoin de perdre son temps. Car nous savons que dans un foyer, si on ne se parle plus, si on ne perd pas du temps à se parler, et qu'on est trop pris par les courses, par le boulot, et par plein de choses, eh bien, ça pourrait bien se détériorer. Les équipes Notre-Dame avaient inventé le devoir de s'asseoir et de prendre de la gratuité dans l'amour. Se parler, aller ensemble, se balader, laisser les enfants à la grand-mère pour prendre 48 heures ou même des vacances, pour refaire alliance, car il ne suffit pas de recevoir une alliance le jour de son mariage, il faut que l'alliance, elle dure. Donc le devoir de s'asseoir, c'est vrai avec Dieu, car je peux faire plein de choses pour Dieu, mais est-ce que je l'écoute d'abord? Vous connaissez Jacques Marin, prêtre ouvrier qui est devenu charismatique, tout peut arriver dans l'Église, et il dit, quand je me suis engagé au sacerdoce, j'ai dit, Jésus, je vais te suivre. Et à 40 ans, un jour, Jésus m'a dit, Jacques, tu m'as dit que tu me suivrais, mais il y a 20 ans que tu me précèdes. Alors maintenant, si tu pouvais passer derrière, voilà. Donc, donner du temps. Alors, hier, j'ai entendu quelque chose, je ne conteste pas, bon, c'est une formule, si j'ai bien compris, mais je ne me suis pas trompé. Jean-Paul II, il ne prie pas parce que toute sa vie est une prière. Je vais un petit peu moduler ça, parce que j'ai été reçu 2 fois en visite à Limina, et puis aussi pour aller perdre les yeux à Jean-Paul II. Et en visite à Limina, on a de la chance, on voit le pape 4 fois en 3 jours, en audience privée, en audience des évêques de la région, on mange avec lui et on célèbre avec lui. Eh bien, je peux vous dire que, pensez-y, le pape, je crois, il est pas mal occupé, le pape, vous savez, vraiment du boulot, hein. Eh bien, nous sommes allés à sa messe privée, c'est à 7h du matin, dans son oratoire privé. Nous sommes arrivés, le pape était en oraison. Il était pas effondré, mais comme ça, sur son prie-Dieu. Nous, on est entrés en silence, on s'est habillés, tout ça. Et puis la messe, c'est ce qu'on appelait, quand j'étais petit, une messe basse, c'est-à-dire une messe sans chant, sans prédication. Et on a dû prendre le canon numéro 2, l'Eucharistie numéro 2 ou 3. Ce qui fait qu'on peut dire une messe comme ça environ en 17 minutes et demie. Le matin, quand vous vous réveillez à 7h et que vous entendez France Inter qui vous donne le bulletin, vous pouvez penser que le pape dit sa messe de 7 à 8 quand il est au Vatican. De 7 à 8. Une heure de messe. Inutile de vous dire qu'il y a pas mal de silence. Et que l'action de grâce après la messe, et un peu longue, même pour des évêques. Bon. Alors, ça, c'est la messe du pape, de 7 à 8 le matin. Il a fait oraison avant, le soir, il dit son chapelet, et je ne sais pas le suite, et son secrétaire particulier nous a dit, parce qu'encore une fois, je crois qu'il y a du travail, ce matin, il nous a reçus, ce matin-là, les évêques de l'Ouest, le frère du roi Hussein de Jordanie avec toute sa suite, une princesse orientale avec son mari, un cardinal espagnol qui avait l'air très pressé, plus les imprévus, un gars qui arrivait des pays de l'Est. Bon, ça c'était un petit bout de la matinée. Donc je crois qu'il y a du travail. Eh bien, son secrétaire nous a dit, le pape, lui, il récupère dans la prière. Mais il y en a bien d'autres. Mère Teresa, je viens de voir le père Joseph, qui est le bras droit, un prêtre américain de Californie, qui est le bras droit de Mère Teresa. Ils ont fondé un groupe de prêtres, ils sont 40 maintenant. Il m'a dit, Mère Teresa, c'est une disciple de Thérèse de Lisieux. Elle s'appelle Teresa par cause de Thérèse. Mais Mère Teresa est d'abord une contemplative. L'image de Mère Teresa, c'est Mère Teresa soignant les lépreux, les morts, ramassant les morts aux Indes, ce qui est vrai. Mais c'est d'abord une contemplative. Mère Teresa aurait voulu être carmélite, comme Thérèse aurait voulu parcourir le monde. C'est indissoluble. Et quand je me rappelle une interview dans Le Monde de Mère Teresa, la femme, la superstar mondiale, et la journaliste disait, on lui a demandé, Mère Teresa, quel est votre secret ? Et Mère Teresa répond, ben, je dis mon chapelet. Alors la fille écrivait, vraiment, c'est décevant. Qu'est-ce qu'on fait dans l'oraison ? Eh bien, quelles que soient ces distractions, Thérèse en avait, quel que soit le sommeil qui peut vous prendre, Thérèse a beaucoup dormi à l'oraison, ça peut vous encourager, parce qu'elle avait 15 ans et elle manquait de sommeil. Eh bien, d'abord, il faut exercer les vertus théologales, c'est-à-dire la foi, l'espérance et l'amour. Ça serait long, mais les vertus théologales, c'est ce qui nous permet de rencontrer Dieu vraiment, parce que c'est lui qui nous permet. Les vertus théologales, c'est un don que Dieu nous fait. La foi, l'espérance et l'amour. Ça ne vient pas de nous d'abord. Alors la foi dont Jésus parle tellement dans l'Évangile et qui est tellement capitale. Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous douté ? Ta foi t'a sauvé. La foi, c'est souvent pas ce qu'on croit. Enfin, je veux dire, ce qu'on imagine. Thérèse est une disciple de saint Jean de la Croix. Et Jean de la Croix n'a fait que rappeler l'enseignement de l'Église. Et il dit ceci, la foi, c'est une vertu théologale qui nous est donnée par Dieu. C'est le seul moyen que nous avons d'atteindre Dieu. Nous ne pouvons pas atteindre Dieu par nos sens, car Dieu n'est pas sensible, il est pur esprit. Nos sens sont absolument essentiels, car c'est par les sens que nous connaissons. Par le toucher, par l'odorat, par l'oreille, nous connaissons le monde par nos sens, nous sommes faits comme ça. Mais mes sens ne peuvent pas atteindre Dieu. Il est bien au-delà et il n'est pas sensible. Nous ne pouvons pas atteindre Dieu par notre intelligence, qui est une chose merveilleuse. Mais notre intelligence est limitée. Et l'homme le plus intelligent, si vous dites « je comprends Dieu », ou vous êtes Dieu, ou alors vous êtes un peu juste, parce que Dieu est au-delà de notre intelligence. Et je ne peux pas le saisir par l'intelligence, il est au-delà. L'intelligence m'est fort utile, parce que je ne suis pas un chat ou une langouste. Et donc, l'intelligence m'a été donnée, elle est reflet de Dieu, je suis créé à l'image de Dieu. Mais l'intelligence, elle peut entrevoir des réalités sur Dieu, au mieux qu'il existe, mais elle ne peut pas découvrir la Trinité, qui est révélée. Donc, qu'est-ce qui peut atteindre Dieu alors ? Eh bien, c'est la foi. Et la foi, c'est à la fois cette onde, comme un émetteur-récepteur que le Seigneur a branché lui-même et qui me permet d'entrer en contact avec lui, qui m'est donnée et que je dois accepter dans ma liberté. Comme disait Thérèse, je veux croire, pas seulement des sentiments. Je veux croire. Et quand je sens rien, dira Thérèse, je crois toujours. Car si vous croyez que le moine qui a fait profession de prier toute sa vie, à 4 heures du matin, quand il se lève pour chanter les laudes, l'hiver, dans son monastère à la montagne, il a une extase au sens qu'il serait tout à fait décontracté. Et bien, je dirais, le moine, il va au boulot de la prière, comme il y a des gens qui vont à l'usine à 5 heures du matin. Et à ce moment-là, il ne se demande pas s'il a mal à l'estomac, s'il a chaud, s'il a froid. Il va faire l'office divin, le bréviaire. Le bréviaire, c'est le raccourci de l'office divin où on loue Dieu toute la journée tout en travaillant. Bon, à ce moment-là, il ne se tâte pas ses sentiments, il y va. J'allais dire qu'il ait envie ou non. Comme la mère de famille, qu'elle ait envie ou non, se lève à 3 heures du matin parce qu'il y a le môme qui braille et qui est malade ou qui a soif. Elle n'a pas un amour débordant, et même des fois, il y a même des gens qui disent « je l'aurais bien fichu par la fenêtre ». Parce qu'il faut sortir de son lit et sortir de soi. Eh bien, le moine, il sort de son lit pour aller à la prière. Bon. Alors, la foi, c'est donc au-delà du sentiment, au-delà de l'intelligence, mais c'est certain, car Jean de la Croix dit « la foi touche Dieu ». La foi touche Dieu, comme la femme malade qui perdait son sang, elle dit, elle avait déjà pensé tout son fric avec les médecins, elle dit Saint Marc, pas Saint Luc parce que lui il était médecin, ça lui faisait pas plaisir de ça. Bon, elle avait tout essayé, elle dit je vais toucher simplement la frange du manteau de Jésus. Elle touche Jésus et une force sort de lui. Et les apôtres, elle dit mais qui m'a touché? Les apôtres disent écoute c'est un bain de foule effrayant, on peut plus bouger et toi tu dis qui t'a touché. Bon, alors la femme est guérie et lui dit ta foi t'a sauvé. La foi c'est ça. Mais, ajoute Saint Jean de la Croix, la foi est certaine, mais elle est obscure. Obscure. Parce que la foi, c'est le contraire de voir. Voir, ça sera après cette vie. Je verrai Dieu. Je ne le vois pas aujourd'hui. En tout cas, si vous l'avez vu, vous venez me voir au podium après. Bon. Je le verrai. Pour l'instant, je vis dans la foi. La foi à la parole de Dieu, la foi à l'Église, la foi aux apôtres, la foi à la parole de Dieu. Et donc, c'est obscur. C'est obscur pour deux raisons. C'est obscur parce que trop de lumière, ça obscurcit. Et Jean de la Croix prend comme exemple les oiseaux de nuit, le hibou, la chouette, ils sont aveuglés dans la journée. Il y a trop de lumière. Nous, devant Dieu, nous sommes comme des hiboux. Il y a trop de lumière et ça nous éblouit. Et donc, c'est obscur, car si vous prenez un coup de soleil dans l'œil, vous risquez de devenir aveugle. Thérèse disait, la sainte face de Jésus a les yeux baissés, parce que si on voyait son regard, on mourait d'amour. Et donc, la foi, c'est aussi un voile qui, pendant cette terre, nous voile la splendeur de Dieu. Et Thérèse va exercer sa foi. Alors, je n'ai pas le temps, mais je vous aurai lu quelques textes. Je vais en lire un. Thérèse, à 16 ans, fait sa retraite de prise d'habit. Et elle est dans une aridité terrible. Elle est venue pour Jésus, elle ne sent plus rien, et elle écrit à Mère Agnès pendant sa retraite, elle a 16 ans. Et elle est disciple de Saint de la Croix, sans l'avoir encore lu. Rien n'auprès de Jésus, sécheresse, sommeil. Je suis pourtant bien heureuse, heureuse de souffrir ce que Jésus veut que je souffre. Puisque Jésus veut dormir, pourquoi l'en empêcherais-je? Je suis trop heureuse qu'il ne se gêne pas avec moi. Il me montre que je ne suis pas une étrangère en me traitant ainsi. Je vous assure qu'il ne fait pas de frais pour me tenir conversation. La pauvre Thérèse ne peut rien dire à Jésus et surtout Jésus ne lui dit absolument rien. Priez pour Thérèse afin que sa retraite plaise quand même au cœur de celui qui seul lit au plus profond de l'âme. Mon fiancé aime mieux me laisser dans les ténèbres que de me donner une fausse lueur qui ne serait pas lui. Je veux tout donner à Jésus. Je ne veux pas donner à la créature seulement un atome de mon amour puisque Jésus me donne toujours de comprendre que lui seul est le bonheur parfait, même quand lui-même paraît absent. Aujourd'hui plus qu'hier, si cela est possible, j'ai été privé de toute consolation. Je remercie Jésus qui trouve cela bon pour mon âme. Et puis peut-être que s'il me consolait, je m'arrêterais à ses douceurs. Mais il veut que tout soit pour lui. Si Jésus ne me donne pas de consolation, il me donne une paix si grande qu'elle me fait plus de bien. Et elle va dire quelque chose de très fort et que je veux souligner en terminant. Je ne comprends pas la retraite que je fais. Je ne pense à rien. En un mot, je suis dans un souterrain bien obscur. Oh, demandez à Jésus, vous qui êtes ma lumière, elle parle à sa sœur, qu'il ne permette pas que les âmes soient privées à cause de moi des lumières qui leur sont nécessaires, mais que mes ténèbres servent à les éclairer. Elle a 17 ans. C'est-à-dire qu'elle ne va pas à la prière pour elle. Elle va à la prière pour Dieu et elle va à la prière pour les autres. Quand nous ne pouvons pas prier, quand nous sommes secs, quand nous sommes distraits, prions au moins pour les autres. Et plus tard, à la fin de sa vie, elle va entrer dans une grande épreuve de la foi et de l'espérance qui va durer 18 mois jusqu'à sa mort. Cette épreuve est mystérieuse, mais nous voyons un petit peu, elle-même l'a exprimée. À ce moment-là, elle meurt de tuberculose. Donc, à 24 ans, son corps est complètement détruit par cette effroyable maladie qui tuait un jeune à Lisieux toutes les semaines au moment où on enterre Thérèse. Et en plus, elle est dans la nuit de la foi. C'est-à-dire qu'elle a l'impression qu'elle va aller dans le néant. Et elle a des phrases qui évoquent plus Nietzsche et Sartre que la littérature pieuse du XIXe siècle. Elle évoquera le suicide. Si je n'avais pas eu la foi, je me serais donné la mort sans hésiter un seul instant, tellement je souffre. Et ne laissez pas des médicaments forts auprès des malades, car on ne sait pas ce qu'ils pourront en faire. Donc la petite Thérèse, ce n'est pas du cinéma. Elle a connu la tragédie. Mais elle vit de foi, de confiance, d'espérance. Ça, je n'ai pas le temps de le développer. Si Dieu est son Père, car ça, c'est la voie d'enfant spirituel que je n'ai pas développée, qui est l'écho de l'Évangile. Si Dieu est son Père, et un Père qui est amour miséricordieux, qui vit dans la Trinité, qui n'est qu'amour, et non pas un Dieu de justice terrorisant qui nous attend au coin du bois, un Dieu de justice qui faisait que beaucoup de carmélites dans ce Carmel, voilà des femmes qui priaient 6h30 par jour, qui se mortifiaient, qui travaillaient. Et comme dit le père Molinier, quand Thérèse leur propose de s'offrir à l'amour miséricordieux, elles partent en courant. Elles disent non parce que j'ai peur. Thérèse dit, je ne peux pas avoir peur de mon père, même si je meurs de tuberculose et même si je suis dans la nuit de la foi. Et jusqu'au bout, elle aura la foi et elle aura cette phrase qu'on ne peut pas dire nous, mais enfin. Bientôt je verrai Dieu, mais pour être avec lui, j'y suis déjà tout à fait sur la terre. Pour elle, croire et voir, ça devient un équivalent. Évidemment, on préférerait voir, ça viendra. Mais l'instant, Jésus nous fait vivre dans la foi. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne nous donnera pas des grâces, qu'il ne nous donnera pas des illuminations, mais que si nous entrons dans la vie avec Jésus sérieusement, pas ponctuellement, mais pour la vie, pour toujours, alors nous serons un chemin qui ne sera pas toujours de la confiture spirituelle. Car Jésus nous attire pour la confiture spirituelle parce que la confiture sur une tartine, c'est meilleur, mais ce qui nourrit, c'est le pain. Alors la confiture va partir, les consolations, il y en aura moins, mais nous aurons le pain de l'Eucharistie, qui peut être sec, aride. Il n'y a pas toujours des extras. Thérèse disait, c'est dans les actions de grâce que je suis le plus sèche. Ça peut vous consoler. Et elle disait, du coup, je décide d'être en action de grâce tout le reste de la journée. Et comment je vais être en action de grâce? En aimant mes sœurs au quotidien. Et l'héroïsme, ce n'est pas de donner sa vie d'un coup quand on a la tête tranchée comme Théophane Vénard. C'est le goutte à goutte de l'amour fraternel le plus proche avec sœur Marie et sœur Saint-Vincent de Paul qui lui disait quelques petites piques qu'il appelait la grande biquette. Bon, pas méchant, mais enfin la grande biquette. Une autre sœur l'appelait la petite sœur, ainsi soit-il. Bon. Rendre des services cachés, sourire quand on n'en a pas envie, le sourire de Thérèse, pas le temps de développer. Bon, une charité fraternelle héroïque au quotidien. Et ça, il n'y a pas besoin d'être au Carmel, hein. On peut le vivre. Parce que la prière est intimement liée à la vie. Ça ne peut pas être une évasion. Si vous faites 3 heures d'oraison par jour, mais qu'à la sortie, vous avez un caractère de cochon, vous engueulez tout le monde, demandez-vous un peu ce qui se passe. Ce qui ne veut pas dire, ben, je ne prie plus. Le travail, c'est travailler, c'est prier. Ça, c'est vrai pour ceux qui sont déjà arrivés à des sommets. Thérèse d'Avila disait, quand on fait la cuisine, on peut être uni à Dieu, pareil qu'à l'oraison. Seulement, elle avait 25 ans d'oraison derrière. Alors, si on ne prend pas des temps de prière gratuits, comment on pourra prier dans le travail? Nous sommes comme ça, on n'est pas des anges. Et alors, cette fois je termine, parce qu'il y aura encore à dire. L'ultime découverte de Thérèse, c'est que cette prière contemplative est une prière missionnaire. Et là, je la lis. Elle tombe sur ce verset du Cantique des Cantiques qu'elle aimait beaucoup, parce que c'est un grand poème d'amour. Cantique 1, 3. Attirez-moi, nous courons à l'odeur de vos parfums. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Elle remarque qu'il y a une faute de syntaxe. Attirez-moi, nous courons. Il aurait fallu dire attirez-moi, je courais. Alors ça la frappe. Cette simple parole, attirez-moi, suffit, Seigneur, je le comprends. Lorsqu'une âme s'est laissée captiver par l'odeur enivrante de vos parfums, elle ne saurait courir seule. Toutes les âmes qu'elle aime sont entraînées à sa suite. Cela se fait sans contrainte, sans effort. C'est une conséquence naturelle de son attraction vers vous. De même qu'un torrent se jetant avec impétuosité dans l'océan entraîne après lui tout ce qu'il a rencontré sur son passage, de même, ô mon Jésus, l'âme qui se plonge dans l'océan sans rivage de votre amour attire avec elle tous les trésors qu'elle possède. Seigneur, vous le savez, je n'ai point d'autre trésor que les âmes qu'il vous a plu d'unir à la mienne. Ces trésors, c'est vous qui me les avez confiés. Et un peu plus loin. Qu'est-ce que donc que d'être demandé d'être attiré, sinon de s'unir d'une manière intime à l'objet qui captive le cœur? Si le feu et le fer avaient la raison, et que ce dernier disait à l'autre « attire-moi », ne prouverait-il pas qu'il désire s'identifier au feu de manière qu'il le pénètre et l'imbibe de sa brûlante substance et semble ne faire qu'un avec lui? Mère bien-aimée, voilà ma prière. Je demande à Jésus de m'attirer dans les flammes de son amour, de m'unir si étroitement à lui qu'il vive et agisse en moi. Je sens que plus le feu de l'amour embrasera mon cœur, plus je dirai « attirez-moi », plus aussi les âmes qui s'approcheront de moi. Pauvre petit débris de fer inutile si je m'éloignais du brasier divin. Plus ces âmes courront avec vitesse à l'odeur des parfums de leur bien-aimé, car une âme embrasée d'amour ne peut rester inactive. Sans doute, comme Sainte Madeleine, elle se tient au pied de Jésus. Elle écoute sa parole douce et enflammée. Paraissant ne rien donner, elle donne bien plus que Marthe qui se tourmente de beaucoup de choses et voudrait que sa sœur l'imite. Ce ne sont point les travaux de Marthe que Jésus blâme. Ses travaux, sa divine mère s'y est humblement soumise toute sa vie, puisqu'il faut préparer le repas de la Sainte Famille. C'est l'inquiétude seule de son ardente hôtesse qu'il voudrait corriger. Tous les saints l'ont compris, et particulièrement peut-être ceux qui remplirent l'univers de l'illumination de la doctrine évangélique. N'est-ce point dans l'oraison que les saints Paul, Augustin, Jean de la Croix, Thomas d'Aquin, François, Dominique et tant d'autres illustres amis de Dieu ont puisé cette science divine qui ravit les plus grands génies? Un savant a dit « Donnez-moi un levier, un point d'appui, et je soulèverai le monde. » Ce qu'Archimède n'a pu obtenir parce que sa demande ne s'adressait point à Dieu et qu'elle n'était faite qu'au point de vue matériel, les saints l'ont obtenu dans toute sa plénitude. Le Tout-Puissant leur a donné pour appui lui-même et lui seul. Pour levier, l'oraison qui embrase d'un feu d'amour. Et c'est ainsi qu'ils ont soulevé le monde. C'est ainsi que les saints encore militants le soulèvent et que jusqu'à la fin du monde, les saints à venir le soulèveront aussi. Voilà ce qu'est l'oraison. Et nous pouvons passer cette journée en descendant en nous-mêmes, non pas pour nous y noyer, pour y rencontrer la Trinité. Et si cette journée, nous la passons dans la sécheresse, dans l'aridité, dans la distraction, si nous durons devant dans la prière en nous disant « je vais rester une demi-heure, je ne partirai pas au bout de 25 minutes », parce que c'est souvent les 5 dernières minutes qui comptent, et puis même il vaut mieux faire 31 minutes comme ça, c'est un peu de gratuité. Si vous dites un quart d'heure, faites un quart d'heure. Si vous dites une heure, faites une heure. Si vous dites 10 minutes, faites 10 minutes. Parce que l'amour est gratuit et que c'est le Seigneur qui vous aime d'abord. Et en même temps, cette journée, ça peut être une journée missionnaire pour tous ceux que nous portons, tous les copains, tous ceux qui ne sont pas venus, tous ceux qui n'ont pas la foi. Seigneur, je veux bien rester dans les ténèbres pour que les autres aient la lumière. Parce que moi, je suis toujours avec toi. Tu n'as pas trop besoin de me consoler. Un peu quand même. Mais enfin, console surtout les autres, disait Thérèse.
La prière de Thérèse, ou prier avec Sainte Thérèse de Lisieux, vous venez de suivre une conférence de Mgr Guy Gaucher, ancien évêque auxiliaire de Bayeux-Lisieux, décédé en 2014.